Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Face à la tragédie vécue par les Ukrainiens après l'invasion russe, l'appel de l'Union des mosquées de France, un appel à participer au devoir de solidarité et d'assistance vis-à-vis des Ukrainiens. Nous écouterons le président de l'UMF, Mohamed Moussaoui. La mobilisation contre le pouvoir militaire ne faiblit pas au Soudan. Des milliers de manifestants anti-putsch ont protesté hier à Khartoum sous les tirs de grenades lacrymogènes. Une première démission dans le gouvernement Bouden en Tunisie. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Aïda Hamdi, a quitté son poste. L'émergence après les législatives de nouveaux profils au sein des partis pour refléter la diversité sociale et académique de la France. Le souhait de Jasser Gebabli, cofondateur d'Open Politics, vous l'entendrez. L'invité de Pluriel hier soir était Isabelle Santiago, députée socialiste du Val-de-Marne. À l'occasion du 8 mars, Les Barrières lui a demandé si les droits des femmes avaient progressé lors du quinquennat d'Emmanuel Macron. Extrait dans votre édition. Russes et Ukrainiens se sont entendus aujourd'hui pour respecter des cessez-le-feu censés permettre les civils de plusieurs régions bombardées d'Ukraine de quitter le terrain. Un accord sur la mise en place entre 8h et 20h de 6 couloirs humanitaires autour de zones durement frappées par les combats ces derniers jours. Et face à la tragédie vécue par les Ukrainiens après l'invasion russe, cet appel de l'Union des mosquées de France, un appel à participer au devoir de solidarité et d'assistance vis-à-vis des Ukrainiens, le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui.
La situation est dramatique. Aujourd'hui, des centaines de victimes parmi les civils sont comptées, puis des centaines de milliers de réfugiés qui sont déjà arrivés en Pologne et dans les pays limitrophes. Et ce matin, j'entendais dire qu'au moins 5000 personnes déjà sont arrivées en France. Je pense que des musulmans de France doivent participer également à cet effort, à la solidarité, à l'assistance que nous devons aux réfugiés de toutes les guerres. Celle-ci est au cœur de l'Europe. Elle est malheureusement, après une dizaine de jours, on compte déjà 2 millions de réfugiés. C'est une situation catastrophique qui appelle la participation de tous. Donc nous avons appelé les musulmans de France à participer à l'élan de solidarité.
Et comment doit-elle se traduire, cette participation?
Nous savons très bien que les pouvoirs publics français, notamment dans le site Service Public, nous avons la liste des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui sont à l'œuvre pour porter aide aux réfugiés. Donc ça part des banques qui peuvent recevoir des dons d'argent, des associations qui reçoivent des denrées, des vivres, des associations qui aident les réfugiés à s'installer. Donc je pense que les associations musulmanes doivent se rapprocher de toutes ces organisations qui sont déjà à l'œuvre, une expérience, une organisation, et de les aider à faire face à la situation.
En tant que président de l'Union des mosquées de France, vous le ressentez d'ores et déjà, cet élan de solidarité?
Oui, je pense que, en tout cas, les musulmans de France ont à cœur d'apporter leur participation, comme tous nos concitoyens. Nous l'avons fait à l'époque lorsque les vagues de réfugiés syriens venaient en France. De nombreuses mosquées ont apporté leur soutien aux réfugiés. Des colis alimentaires ont été distribués à plusieurs occasions. Je pense à l'approche du mois de Ramadan, on est dans quelques jours, on sera en plein mois de Ramadan, c'est un mois de partage et de solidarité. Je pense que cette générosité, cette solidarité doit s'exprimer également dès maintenant et notamment pendant le mois de Ramadan à l'égard de tous les réfugiés et notamment les réfugiés ukrainiens qui vont malheureusement venir par milliers en France.
Et nous l'avons vu à Lyon, il y a un élan de solidarité interreligieux.
Tout à fait. La conférence des responsables du culte de France s'est réunie très prochainement, le 14 mars prochain. À l'ordre du jour de cette réunion, nous allons également voir ensemble ce que nous pouvons apporter comme aide interreligieuse aux réfugiés ukrainiens.
Le prêche de vendredi prochain sera notamment consacré à la situation en Ukraine.
En tout cas, nous avons appelé les fidèles à prier pour la paix, pour que les gouvernants de notre monde retrouvent les voies salutaires de la paix et de la concorde et qu'ils abandonnent les égarements de la guerre. Je pense qu'une guerre, lorsqu'elle commence, malheureusement, c'est la souffrance qui va avec. Et aujourd'hui, nous le voyons, des images malheureusement qui parviennent dans tous les foyers des Français et du monde entier montrent la désolation, la destruction, le déchirement des familles, des corps, des blessés. C'est la souffrance, c'est toujours la souffrance. Et nous devons, tant que croyants, intensifier, parce que nous croyons à la force de la prière, pour que la paix et la concorde s'installent au lieu de la guerre.
Le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui. La nette hausse des cours du pétrole et du gaz depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La crise énergétique actuelle marquée par une flambée des prix est comparable en intensité, en brutalité au choc pétrolier de 1973. Voilà ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre français de l'économie. Dans ce contexte, les États-Unis ont annoncé hier un embargo sur les importations de pétrole et gaz russes. La mobilisation contre le pouvoir militaire ne faiblit pas au Soudan. Des milliers de manifestants anti-putsch ont protesté hier à Khartoum sous les tirs de grenades lacrymogènes. Une manifestation peu après l'arrestation d'un opposant. Les manifestants ont brandi des drapeaux du pays et les portraits des 85 victimes de la répression lancée depuis le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre dernier. Une première démission dans le gouvernement Bouden en Tunisie. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Aïda Hamdi, a quitté son poste. Le président Kais Saied a accepté sa démission. La Tunisie souffre depuis le 25 juillet dernier d'une crise politique lorsque Kais Saied avait décidé d'une série de mesures d'exception. Exemple, le gel des activités du Parlement, la légifération par voie de décret présidentiel ou encore le limogeage du chef du gouvernement. Le syndicat des fonctionnaires d'électricité du Liban a appelé à une grève jusqu'au 15 mars prochain. Le syndicat dénonce selon lui l'indifférence affichée par les autorités à l'égard de ces demande et il demande notamment une hausse des salaires dans un pays frappé par une très grave crise socio-économique et financière. Après l'élection présidentielle, les 10 et 24 avril prochains en France, aura lieu le scrutin législatif. Jasser Gebabli, cofondateur d'Open Politics, un incubateur politique, souhaite à cette occasion que de nouveaux profils émergent au sein des partis pour refléter la diversité sociale et académique de la France, avec un objectif aussi de parité. Jasser Gebabli, cofondateur d'Open Politics.
L'idée nous est venue avec mon cofondateur Antoine Juchins pour parler et pour travailler sur cette idée d'incubateur politique, parce que nous-mêmes, quand on était jeunes, en tout cas il y a quelques années, on a participé à des élections. Et la participation à ces élections-là, pour moi en Tunisie et pour lui, pour les élections européennes avec Allons Enfants en 2019, n'était pas facile. C'était pas facile parce que pour nous les partis politiques c'était un peu des boîtes noires, on ne comprend pas forcément comment ça se passe, on ne comprend pas comment on peut influencer la vie publique, et beaucoup de Françaises et de Français aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont un peu désenchantés de cet engagement politique parce qu'ils ne comprennent pas comment ces partis marchent et parce qu'ils ne voient que un peu les magouilles, la politique politicienne dans le fonctionnement de ces organisations politiques. Donc l'objectif de la formation, c'est vraiment déjà de sensibiliser les citoyennes et les citoyens à cet engagement-là, d'assurer une certaine diversité en allant chercher de nouvelles personnes qui sont éloignées de la politique et de la vie publique et associative, et surtout les former, leur donner les moyens pour qu'ils puissent peser dans cette vie politique et publique, et surtout pour pouvoir changer la donne de l'intérieur dans ces organisations politiques. Et je tiens à préciser que du coup, nous, on est un incubateur de formation politique gratuit, apartisan et indépendant. Gratuit parce que on ne veut pas écarter des personnes qui n'ont pas forcément les moyens pour se former à la politique, comme d'autres écoles ou d'autres académies qui peuvent exister. On est apartisan. On invite des personnalités politiques de tout horizon, de tout background politique, des personnalités politiques de la droite, de la gauche et du centre. On a eu Najat Vallaud-Belkacem, on a eu Nathalie Loiseau, on a eu Agnès Evren, la vice-présidente des Républicains. On invite des personnalités qui ont aussi de background plutôt technique, des conseillers discours de ministres, du premier ministre, des conseillers politiques du président de la République, des directeurs de cabinet de présidence de la République. Et l'objectif, c'est vraiment du coup d'assurer un certain débat avec des participantes et des participants à la formation qui n'ont pas forcément non plus les mêmes idées. Ils peuvent être aussi de droite, de gauche, non encartés, pas du tout intéressés par la vie des partis, mais finalement ils sont là elles et ils sont là pour pouvoir débattre, pour pouvoir aussi construire des choses en commun et pour pouvoir trouver des points en commun. Parce qu'on a remarqué que dernièrement sur la scène politique, on parle surtout de ce qui nous divise comme société. Et on ne parle jamais de ce qui nous unit comme nation. Et l'objectif de la formation, c'est de travailler aussi sur ça.
En 2017, la plupart des députés qui ont été élus étaient issus de milieux sociaux professionnels plutôt favorisés. Votre but, c'est qu'il y ait des députés venant de classes populaires en 2022 ?
Exactement. L'objectif, c'est... En 2017, on a remarqué qu'il y avait une certaine diversité de l'origine plutôt académique, parce que on était habitué à des députés qui venaient de Sciences Po, de l'ENA, qui venaient de l'administration publique, qui ont vécu plutôt dans des partis. En 2017, il y avait un changement de profil. On avait plus de consultants, d'ingénieurs. Mais finalement, comme vous l'avez dit, en fait, c'est vraiment un niveau social, professionnel un peu élevé. Et l'objectif là, c'est vraiment d'aller plus loin, en fait, dans la démarche pour nous, et c'est d'aller chercher dans les territoires français déjà des jeunes et des citoyennes et des citoyens, indépendamment de leur âge aussi, qui pratiquent un peu la vie publique au quotidien dans leur métier et avec un contact humain concret pour qu'ils puissent porter leur combat au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat et demain peut-être au sein de conseils municipaux, de conseils régionaux et départementaux parce qu'on essaie de travailler aussi sur le long terme. Donc par exemple sur la promotion 4, on a un jeune ouvrier qui n'a pas fait des grandes études et qui fait la formation pour comprendre la politique en premier temps et par la suite pour aller plus loin, pour du coup s'engager dans la vie publique et politique à travers des partis ou à travers des élections et des échéances à venir.
Vous êtes aussi sensible à la question de la parité en politique ?
Bien sûr, c'est un principe. Toutes nos promotions, on a commencé le 29 mai 2021, on est à la quatrième promotion, c'est-à-dire on est à 120 participantes et participants formés à la politique, toutes nos promotions étaient paritaires, au même plus. On avait toujours, du coup, on a 53% du coup de femmes participantes à la formation et 47% d'hommes. Et ça, c'est important aussi, parce que on le voit dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, il y a un problème aujourd'hui de parité dans ces chambres-là. Dans le conseil municipal et les conseils régionaux, il y avait des améliorations qui ont été faites. On l'a remarqué avec les différentes élections du coup en 2020 et en 2021. Mais là, il faut aller plus loin au niveau national. Il faut travailler sur cette parité-là. Et nous, l'objectif, c'est de donner plus de moyens aussi à ces femmes qui veulent s'engager, qui ont une valeur ajoutée et qui sont égales aux hommes aussi, qui peuvent s'engager. Et l'objectif, c'est de travailler ensemble pour qu'on puisse assurer cette parité-là et pour qu'on puisse accélérer l'engagement des femmes pour rattraper un peu ce retard-là au niveau de la parité et l'égalité femmes-hommes dans la politique.
Les partis politiques traditionnels jouent le jeu. Ils sont d'accord pour favoriser l'émergence de nouveaux profils à l'occasion de ces élections législatives ?
Je me pense que nous, on travaille beaucoup avec du coup des dirigeants de partis politiques qui viennent intervenir, qui viennent parler de leur retour d'expérience, de leur engagement. Ils sont favorables, bien sûr. Je pense que honnêtement, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ces partis politiques-là, et les dirigeants n'ont pas le choix. Aujourd'hui, les jeunes ont des nouvelles préoccupations, des nouveaux enjeux sur lesquels ils travaillent, qu'ils défendent. Et pour pouvoir les traiter, pour pouvoir répondre à ces préoccupations-là, les partis politiques doivent intégrer de nouveaux talents, doivent intégrer de nouveaux visages et doivent intégrer surtout de nouvelles méthodes de travail. Et ces méthodes de travail-là, on ne peut pas les intégrer sans ces nouveaux visages. Et c'est ça l'objectif d'Open Politics, c'est d'assurer une émergence d'une nouvelle génération de leaders engagés partout pour qu'on puisse changer ces méthodes-là de l'intérieur. Et les partis politiques, je pense, on le voit, et peut-être on va le voir concrètement pour les élections législatives en 2022 au mois de juin, je pense que du coup dans tous les partis traditionnels, que ce soit les LR, le PS, LROM, qui devient aussi un parti plutôt classique, ils vont assurer du coup ce changement intergénérationnel au niveau de leurs leaders, au niveau de leurs candidates et candidats.
Yasser Gebelabli, cofondateur d'Open Politics, Yasser Gebelabli répondait à Loïc Barrière. La pandémie de Covid-19 n'est pas finie et la distribution des vaccins sur la planète reste scandaleusement inéquitable, un constat du secrétaire général de l'ONU, des propos d'Antonio Guterres dans un communiqué marquant le deuxième anniversaire du déclenchement de ce fléau mondial. En France, le nombre de contaminations est en hausse, mais pour le moment, le nombre de patients hospitalisés avec un diagnostic Covid-19 baisse. Il est passé sous le seuil des 22 000. L'invité de Pluriel hier soir était Isabelle Santiago, députée socialiste du Val-de-Marne. À l'occasion du 8 mars, Luc Barrière lui a demandé si les droits des femmes avaient progressé lors du quinquennat d'Emmanuel Macron. Isabelle Santiago.
Si on ne prend que la question de l'égalité homme-femme, il reste encore beaucoup à faire. On ne va pas assez loin. Après, si on prend les sujets sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé, qui sont les violences faites aux femmes, on ne peut pas se satisfaire de la situation, loin de là. J'ai participé, y compris dans des amendements votés à l'Assemblée nationale, qui ont été pris à l'unanimité, donc je m'en félicite dans certaines lois, de pouvoir faire avancer quelques points saillants et importants. Mais aujourd'hui, sur une présidentielle, c'est un enjeu majeur. La société, elle doit avancer sur ce qu'on demande, c'est-à-dire 1 milliard pour les violences, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. On en est très très loin. Le budget, même s'il avait été un petit peu augmenté, en fait, il a été plutôt réduit si on le regarde de manière transversale sur les politiques publiques concernant ces actions-là. Et par ailleurs, on oublie souvent que quand on parle de violences faites aux femmes, la plupart du temps, on est aussi avec des familles, donc des enfants. Aujourd'hui, le psychotrauma permet de voir les dégâts que ça peut faire et de mieux le comprendre par les neurosciences, la problématique du développement de l'enfant qui vit dans ces milieux familiaux. Et donc, il nous faut des tribunaux spécialisés. Nous devons avoir un modèle à l'espagnol, même si, bien sûr, le modèle français peut être revisité. Mais en tout cas, on doit tendre vers quelque chose qui est beaucoup plus rapide.
Isabelle Santiago, députée socialiste du Val-de-Marne, elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission disponible sur radioorient.com à 19h et 23h. Loïc Barrière recevra Marine Tondelier, porte-parole du candidat écologiste à la présidentielle. Yannick Jadot, fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est précisément 12h17.